Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine autour de ces podcasts. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver Conflit dans nos émissions de télévision diffusées sur notre chaîne YouTube et puis, bien évidemment, Conflit dans les kiosques avec actuellement un dossier consacré à la Turquie et à la politique d'Erdogan. Acheter Conflit dans les kiosques et vous abonner est la meilleure manière de nous soutenir et de permettre ainsi de vous proposer un contenu géopolitique varié d'une très grande richesse et qui, je l'espère, vous permet de mieux comprendre le monde tel qu'il est. Alors cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui est très important puisqu'il s'agit de la langue. Et important bien évidemment puisque la langue permet de penser, la langue permet de parler, de communiquer. C'est d'ailleurs un des chapitres du programme du baccalauréat. Il y a un chapitre comme ça qui est consacré à la langue. Nous avons eu parfois l'occasion de le traiter dans le magazine Conflit. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la chronique d'Ingrid Riocreux qui s'intitule « La langue des médias » qui, à travers cette rubrique, étudie plusieurs aspects de la façon dont une langue peut être utilisée, manipulée ou utilisé à des fins parfois politiques. C'est ce que nous allons essayer de voir au cours de cette émission avec mon invité Jean Slamovich. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes linguiste, vous êtes professeur des universités, vous enseignez à l'Université de Bourgogne, vous avez publié plusieurs ouvrages autour de la question de la langue et de la linguistique, dont un de vos derniers ouvrages qui est paru en 2018, « Le sexe et la langue, petite grammaire du genre en français », paru aux éditions Intervalle. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Ce que l'on constate depuis quelques années, mais d'ailleurs ce n'est pas forcément nouveau, c'est qu'il y a un véritable enjeu politique autour de la langue. Alors on a l'écriture inclusive, il y a la question de la féminisation des mots, il y a parfois des sujets de revendication qui sont tout à fait légitimes, et puis d'autres qui sont des sujets de politique politicienne ou de revendication de minorités qui sont beaucoup plus contestables. Finalement, à travers ces revendications, est-ce que leurs auteurs n'ont pas compris quel était le pouvoir réel d'une langue, l'utilité réelle d'une langue, à savoir de contribuer à forger une pensée? Et donc, si on contrôle la langue, on contrôle la pensée de ceux qui l'utilisent.
C'est un enjeu actuel qui est tout à fait nouveau, à la fois nouveau et qui relève d'une tradition, c'est d'embrigader la langue sur le plan idéologique. Ça a toujours été le cas, au fond. Il y a toujours eu une dimension politique et identitaire, par exemple nationale, sur la langue. D'ailleurs, ce qui définit une langue, c'est aussi la communauté linguistique qui la revendique, qui s'en revendique. Ce sont des choses qui ne concernent pas la grammaire, en fait. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'irruption d'un discours sur la langue qui prend argument de fonctionnements grammaticaux. En gros, aujourd'hui, ce que je nomme l'inclusivisme consiste à imaginer que la structure de la langue elle-même serait politique. Alors, c'est tout à fait nouveau, ça, par contre. On n'est plus dans une revendication, disons, d'identité de type la langue française, la nation française. On est dans un discours qui consiste à imaginer que la syntaxe, les accords auraient une pertinence politique et idéologique et qu'il faudrait réformer cette dimension-là, comme si la syntaxe, les prépositions, les accords relevaient d'une décision intentionnelle qu'on pouvait construire, manipuler, et surtout à laquelle on pouvait donner une interprétation politique. Ça, c'est tout à fait nouveau.
Et finalement, la question qui est posée aussi, c'est qui est-ce qui fait la langue, qui est-ce qui est légitime pour dire qu'un mot nouveau, par exemple, peut être employé, il y a même en France le rôle de l'Académie française, mais une langue est aussi, évolue aussi par la pratique de ceux qui l'utilisent.
Absolument, oui. On surestime beaucoup en France le rôle de l'Académie française et notamment les gens qui veulent s'y opposer. On a besoin d'un épouvantail auquel s'opposer. Dans la réalité pratique, l'Académie française est surtout là pour entériner des usages. Donc bon, c'est pas l'Académie française qui décide de la façon dont les francophones parlent. Évidemment, on consulte bien moins l'Académie française pour savoir comment parler que l'on est influencé par son environnement. Bien sûr, la langue, c'est l'usage. L'usage, c'est celui des locuteurs eux-mêmes. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'inclusivisme notamment, mais pas seulement, va vouloir forcer à certains usages. Et ça, on voit justement des effets de... C'est un prescriptivisme, mais qui s'impose par les médias, par les réseaux sociaux, par la propagande et par l'enseignement et par une forme d'intimidation morale où on vous dit qu'il faut parler d'une certaine manière, sinon, eh bien, on n'est pas politiquement correct. Et cette intimidation finit par avoir des effets hein, et qui sont... vous disiez qui décide, eh bien, ce sont des effets qui sont de fait, qui ne sont contrôlés par aucune instance, mais qui sont le fruit de rapports de force liés à des mouvements, en fait. Il faut bien appeler ça des mouvements de militantisme. En fait.
Quelle est l'origine de cette mode de l'écriture inclusive? On l'a vu apparaître il y a une petite dizaine d'années à peu près. Mais d'où est-ce que ça surgit? Est-ce qu'il y a des personnes derrière, des linguistes qui ont réfléchi à cette question, qui ont élaboré des traités pour l'imposer, pour la défendre? Enfin, pourquoi c'est apparu d'un coup comme ça?
Alors, concrètement, l'écriture inclusive, c'est d'abord un nom de domaine qui a été déposé en 2016 par une agence de communication et qui a diffusé un manuel d'écriture inclusive. C'est le fruit, en réalité, de tout un tas de propositions, notamment, je crois que le Haut Conseil à l'égalité avait fait des propositions en matière de féminisation, ça a donné lieu à, un développement qui... C'est un petit peu emballé. On voit que c'est devenu à la fois une idéologie et un business, c'est devenu un champ qui est en fait lié aussi à ce qu'on appelle les gender studies et au développement de la notion de genre, qui est un concept un petit peu mou, qui provient à la fois de la philosophie, de la littérature, de la sociologie, et qui, c'est un petit peu, comment dire, vous avez raison, il y a des linguistes qui en ont parlé, mais qui en parlent plus comme militants que comme linguistes, et qui élaborent, en réalité, une morale plus que des études scientifiques. En fait, c'est tout l'objet sur lequel j'ai beaucoup écrit du problème, c'est que on a à la fois un principe moral, il faudrait une écriture inclusive, et qui s'assoit sur un prétexte scientifique. Ça serait prouvé par la science. Alors, le problème, c'est que c'est un petit peu, c'est un peu l'un ou l'autre, hein. Soit c'est une question de morale, soit c'est une question de fonctionnement linguistique. De fait, les linguistes qui s'expriment sur l'écriture inclusive argumentent à partir des usages qu'ils proposent. Encore une fois, on a affaire à un prescriptivisme. Ça n'est pas une attitude scientifique qui serait descriptive, qui étudierait les usages. C'est un militantisme qui veut imposer un usage. Donc, de ce point de vue-là, le jargon et les prétextes linguistiques ne sont pas tout à fait légitimes, hein. Il s'agit avant tout d'un militantisme. Je peux en donner un exemple qui est tiré d'un ouvrage qui est sorti il y a pas longtemps, où vous avez deux linguistes qui... par exemple, milite pour qu'on ne dise plus aller chez le coiffeur parce que ça serait discriminatoire vis-à-vis d'une expression comme aller aux putes. Alors, c'est assez saisissant comme façon de convoquer des expressions qui n'ont rien à voir, et ça repose sur une interprétation complètement fantasmagorique où chez serait illégitime parce que ça ne décrirait pas une habitation, et on lit le fait que aller aux putes serait péjoratif à cause de la préposition au. Bon, évidemment, c'est le mot pute qui est péjoratif, c'est pas la préposition. Et aller développer tout un raisonnement sur l'injustice, l'inégalité, le sexisme, fondé sur ce genre d'exemple, montre bien que on a beau avoir affaire à des linguistes, ce sont des linguistes qui ont perdu le sens commun, là, et qui n'ont plus aucune méthode linguistique pour aborder ce genre de questions qui sont pourtant bien étudiées, hein, la question des prépositions, des questions de grammaticalisation, etc. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont bien étudiés par la littérature scientifique, mais qui sont aujourd'hui, qui subissent une distorsion, en fait, pour des raisons idéologiques, essentiellement.
Ces questions d'écriture inclusive, est-ce qu'on les retrouve dans les autres langues européennes, l'italien, l'espagnol, l'anglais? Il y a le même militantisme, justement, la même volonté de tordre la langue et de l'utiliser à des fins politiques?
Absolument, et ça montre bien d'ailleurs la dimension idéologique de la chose. Parce que soit la structure... grammaticale du français est sexiste, mettons qu'on parte de ce postulat-là, comment imaginer que, en fait, chaque langue européenne qui est structurée différemment, qui pour laquelle le genre, les systèmes de pronoms, etc., sont différents, eh bien, elle serait également coupable de sexisme. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette accusation, quelle que soit la structure grammaticale. Donc, y a un effet, si vous voulez, il y a un biais qui est lié au fait que si on veut trouver du sexisme, on va en trouver. On va en trouver, mais ça sera en sacrifiant toute méthode et toute rationalité, c'est-à-dire en choisissant justement un biais unique, en sélectionnant uniquement les faits qu'on a envie de retenir, et en posant une interprétation qui est... illégitime du point de vue du système de la langue. Donc, effectivement, le fait qu'on retrouve ça dans ce genre de mouvement et de discours sur la langue, quelle que soit la langue, ça tend à montrer qu'il y a un parti pris idéologique et pas une étude réelle des systèmes grammaticaux.
On a la même question aussi avec la féminisation des noms. Je vais vous montrer quelques exemples. Là aussi, alors à l'université notamment, ça fait... beaucoup débat. Par exemple, maintenant, il y a le maîtresse de conférence qui est entré en vigueur, enfin dans les usages du moins, ce qui, je trouve d'ailleurs, fait toujours un petit peu bizarre comme mot. Mais enfin, on voit là aussi qu'il y a des débats. Alors, certains mots peuvent effectivement être féminisés ou masculinisés, mais est-ce qu'on ne confond pas justement le sexe avec le genre, et donc on fait une confusion grammaticale autour de ce que n'est pas un mot?
Complètement. Bon, ce sont des revendications symboliques. Je veux dire, on confond volontiers les mots et les personnes. Ce qui compte, c'est l'égalité d'accès au poste de maître de conférence, pas le mot qu'il désigne. Et d'ailleurs, on voit bien, dès qu'on passe à l'acronyme, il n'y a plus aucun problème. Dès qu'on dit PR ou MCF, évidemment, il n'y a plus aucun problème. Ce sont des débats symboliques qui portent sur peut-être une dizaine de mots, comme auteur, et quelques autres. Effectivement, c'est une grande confusion qui part d'ailleurs, je crois, des recommandations du Haut Conseil à l'égalité des hommes et des femmes, qui a décrété en fait que les mots de genre masculin, pour ce qui est des fonctions, doivent correspondre à des êtres masculins et les mots de genre féminin à des êtres féminins. Ce qui est absurde, parce que ça n'est pas comme ça que fonctionne la langue. Quand vous dites une recrue, ça peut être un homme. Quand vous dites une vedette, le mot est féminin, ça peut désigner un homme, etc. La langue n'est pas organisée autour de ce genre de correspondance. Et il n'y a qu'à songer, bien sûr, aux langues qui comportent d'autres genres que juste masculin et féminin. Quand en allemand on dit das Mädchen, c'est un neutre, pourtant c'est un être féminin. Donc croire que les langues fonctionnent en se fondant sur ce genre de correspondance, c'est une aberration du point de vue des fonctionnements des langues. Alors la question de la féminisation, par contre, c'est une question que l'usage régule parfaitement naturellement. Si vous avez besoin de distinguer entre un homme et une femme, personne n'a jamais eu de problème pour le faire et pour trouver les mots pour le dire. Simplement, pour des raisons un petit peu morphologiques, il y a des mots qui s'y prêtent plus que d'autres. Il y a des mots qui sont déjà, par exemple, je pense à médecin, vous ne pouvez pas dire médecine, parce que médecine, c'est la discipline, la médecine. Donc, on a du mal à le féminiser sur le plan morphologique, sur le nom. Et ce n'est pas pour ça qu'on est empêché de désigner des médecins qui seraient des femmes. Si je dis « elle est médecin », évidemment, c'est marqué par le pronom au lieu d'être marqué par le nom. Voir une intentionnalité sociale dans ce genre de phénomène, c'est un petit peu délirant quand même. C'est-à-dire que, ce sont des questions formelles, ce sont des questions de morphologie. La féminisation, elle est tout à fait régulée par l'usage et elle se fait naturellement. Bon, voilà, à quelques mots près qui vont être investis symboliquement et politiquement. Bon, c'est pas un, comment dire, c'est pas un problème de linguistique, c'est surtout un problème de revendication politique.
Est-ce que le neutre existe en langue française ? On connaît très bien en latin et dans d'autres langues, mais en français, il s'est maintenu ou est-ce qu'il prend d'autres formes, le genre neutre ?
C'est une excellente question qui est la source de beaucoup de confusion. Il faut distinguer, en linguistique, on distingue entre le genre formel et le genre sémantique. C'est-à-dire que ce soit neutre, masculin ou féminin, ça peut désigner des formes ou ça peut désigner, des référents dans le monde. C'est-à-dire qu'un mot peut être masculin et désigner une femme et vice-versa. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de problèmes. En fait, l'inclusivisme confond les deux. Le neutre sémantique existe. On n'a pas de neutre morphologique en français comme en latin, mais il existe bel et bien C'est-à-dire que et le problème, justement, c'est un héritage du latin, il se confond souvent avec le masculin. C'est-à-dire que le neutre et le masculin ont la même forme. Et du coup, on a cette revendication politique qui consiste à dire que c'est injuste, quand on veut parler de manière générale, c'est la forme du masculin. Bon. On peut se demander pourquoi la généricité serait une espèce de privilège social et si ça apporte quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est une interprétation, mais bon, il y a peu de contrepartie sociale. Donc, parler de privilège, on est dans le registre de la métaphore et pas dans la réalité. Et donc, le neutre, si on veut, un exemple de ça, c'est justement ce qu'on appelle parfois le masculin générique, le contribuable. Quand vous recevez une lettre des impôts qui dit le contribuable doit régler l'impôt, etc., bien sûr, ça ne désigne pas que les hommes, hein, ce serait trop beau que les femmes s'en trouvent exemptées simplement par la généricité de ce masculin. Donc, le contribuable, si on y réfléchit, non seulement ça n'est ni un homme ni une femme, mais toute personne qui devra contribuer, mais par ailleurs, et c'est là aussi une question très bien étudiée par la sémantique, même si elle est ignorée volontairement par l'idéologie, quand on dit le contribuable, en réalité, ça renvoie à tous les contribuables qui reçoivent la lettre, c'est-à-dire que pragmatiquement, ça renvoie à une pluralité de personnes. En fait, on pourrait comparer le genre avec la question du nombre. Dans la langue, le nombre ne désigne pas la même chose sur le plan des formes et sur le plan de la réalité. Quand je dis tout le monde descend, tout le monde, ça désigne une pluralité, évidemment, de personnes, ça reste au singulier. Donc, personne ne va trouver scandaleux l'écart entre l'emploi d'un singulier pour désigner une pluralité, alors qu'aujourd'hui, mais par pur biais idéologique, on en est à trouver injuste le fait que du masculin puisse envoyer une pluralité comprenant des femmes, etc. Mais encore une fois, tout cela, ce sont des confusions entre le genre formel et le genre sémantique. C'est une confusion. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs à savoir si les inclusivistes le font exprès, en sont conscients, mais le font exprès, ou s'ils sont réellement convaincus qu'il y a une représentation masculiniste de la généricité, par exemple. Donc, pour répondre sur la question du neutre, il y a du neutre, il y en a même beaucoup, mais il n'est pas marqué par un cas, un genre qui serait distinct.
Sur la question des noms de fonctions, le président, le maire, là aussi, quel est le bon usage d'un point de vue de la linguistique? Est-ce qu'on dit Madame le maire, Madame la maire? Il y a eu un débat il y a quelque temps à l'Assemblée où un député avait dit Madame le président et il s'est retrouvé avec une amende parce qu'on a considéré que c'était une atteinte à cette personne en tant que femme, alors qu'apparemment ça semblait être la bonne forme d'emploi et d'usage.
Ce sont des questions protocolaires, ce ne sont plus des questions de linguistique ou de grammaire, ce sont des questions éminemment symboliques. Il y a des usages, ces usages sont visiblement remis en question. Le linguiste n'a pas grand-chose à dire là-dessus, hein, qu'on dise Madame le ministre ou Madame, enfin le ou la ministre, la président, etc. Ce sont vraiment des questions qui sont arbitraires, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir la forme de politesse protocolaire qui est acceptée institutionnellement. Mais là, pour le coup, ça concerne une décision institutionnelle, politique, réglementaire, qui n'est pas de l'ordre de la grammaire. Et je pense qu'il y a effectivement sans doute un flou, parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce d'écart entre le réalisme, voilà, on en, le président, pour la fonction, quelle que soit la personne. Mais vous voyez, ça, c'est typiquement un phénomène auquel on a affaire souvent. On hésite entre un accord par rapport à la forme ou un accord par rapport au sens. Hein, comme, je ne sais pas, quand on emploie des mots comme « la plupart hein, », la plupart des gens, bon, est-ce qu'on doit accorder au singulier parce que c'est la plupart ou est-ce que c'est au pluriel parce que ça désigne une pluralité ? Souvent, on hésite et justement, en général, on se réfère à une autorité pour savoir quel est le bon usage. Bon, dans la réalité, en fait, on peut accorder soit vers le singulier, soit vers le pluriel, selon quand on a justement envie de souligner une dimension ou une autre. C'est pareil pour le genre, il y a un flottement. Bon, il se trouve que dans les questions, quand il s'agit de président, de ministre, etc., il s'agit de fonctions publiques et pour lesquelles, du coup, c'est un protocole qui est régi par une dimension plus consciente. Ce que seront les décisions politiques concernant les appellations de fonctions qui relèvent de la fonction publique et de l'État.
Donc finalement, dans l'usage d'une langue, il y a toujours une marge de manœuvre ou un degré de liberté qui permet aussi d'en jouer un petit peu et puis d'insister sur tel ou tel point. Rien n'est complètement codifié ou figé.
Absolument, non seulement il y a la codification, c'est-à-dire qu'il y a différents types de normes. Il y a la norme scolaire, il y a des normes propres à des genres de discours. Il est évident, par exemple, qu'à l'oral et à l'écrit, on n'a pas les mêmes. Le français n'est pas le même, hein, il faut en être conscient. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas confondre la langue comme structure et le discours comme intention. C'est-à-dire que, justement, pour reprendre la question du féminin, du masculin pour les noms de fonction, ce sont des mots qui sont souvent d'une grande souplesse d'usage. Si vous dites le fournisseur, on va dire « ah, c'est un masculin », ben oui, mais le fournisseur, souvent, c'est une entreprise. Ça n'est pas une personne. Donc, on a un masculin, mais qui ne renvoie pas une personne ni masculine ni féminine. C'est un exemple, par exemple, d'une forme de neutralité, mais même dire neutre, vous voyez, il ne sait même plus de faire référence à des personnes. Mais il se trouve que le mot fournisseur peut aussi désigner une personne. Hein. On peut effectivement désigner une personne unique et pas une entreprise. Et cette personne peut être un homme, etc., etc. Hein, c'est le problème de la question de la féminisation. On a ça. En fait, c'est un faux problème. Souvent, le mot féminin existe, mais ça n'empêche pas un emploi générique. Par exemple, quand vous dites on va nommer un nouveau directeur. Une fois que ce directeur sera nommé, il peut être un homme ou une femme, et à ce moment-là, ça sera une directrice ou un directeur. Donc, l'emploi générique, c'est précisément quand ça porte sur une personne qui n'est pas spécifique, qui n'est pas identifiable, qui n'existe pas d'une certaine manière. L'emploi, vous voyez, des formes, il est lié à ce qu'on veut dire, au reste de l'énoncé, aux marques pronominales. Enfin, il y a tout un ensemble de facteurs et malheureusement, l'idéologie souvent réduit ça à une espèce de binarisme complètement manichéen, en fait, où il y aurait une forme qui serait bonne et une qui serait mauvaise. C'est un prescriptivisme qui est tout à fait dommageable pour comprendre comment fonctionne le langage.
Finalement, à vous écouter, Jean Samovitch, j'ai l'impression qu'on a encore aujourd'hui, dans les années 2020, des combats qui sont apparus dans les années 60, d'une logique d'ailleurs assez marxiste, d'opposition systématique. Alors, avant, c'était les oppositions sociales, et puis aujourd'hui, c'est les oppositions liées au sexe et au genre, hommes et femmes. Et on a l'impression qu'on est toujours en train de recréer des clivages. Il faut forcément qu'il y ait un dominant et un dominé, et des clivages artificiels pour créer des tensions systématiques, cette fois-ci autour de la langue.
Alors, complètement, oui, c'est évident. Il y a une tendance, disons, militante. Alors, bon, ça a été bien étudié par Raymond Boudon, notamment dans L'idéologie ou l'origine des idées reçues, par Raymond Aron aussi, dans L'opium des intellectuels. C'est-à-dire que le champ des sciences sociales est très souvent le lieu d'un investissement militant. Et on, effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'inclusivisme, qui pour moi est le volet linguistique de la cancel culture, c'est le déboulonnage non pas des statuts mais de la grammaire, c'est l'exact équivalent. Il y a une convergence idéologique en général chez ces militants-là avec le reste de la cancel culture. Et vous savez, quand on n'a pas de créativité scientifique, quand on n'a pas d'idées sur le plan scientifique, souvent on se réfugie dans l'idéologie, dans l'ambiance en fait. Ça offre aussi, il faut bien en être conscient, des possibilités de carrière, hein, appliquer les normes du moment. Encore une fois, l'écriture inclusive, c'est un manuel qui a été développé par une entreprise de communication y a un business aussi de l'idéologie, notamment en proposant des formations aux entreprises. Alors, entre les carrières universitaires, l'entrisme dans le monde de l'entreprise, vous avez en fait toute une configuration qui effectivement à la fois relève du dogme idéologique, de la pseudo-science, du militantisme, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très, très compliqué de l'analyser parce que ça relève de dimensions qui sont multiples. Et comme toujours, en matière d'idéologie, les gens ne sont qu'à moitié conscients de ce qu'ils véhiculent, tout simplement parce que, au fond, l'écriture inclusive part d'une bonne intention, d'une bonne idée, hein. C'est de l'égalitarisme. Personne n'est contre l'égalitarisme. Mais c'est comme un dogme qui se serait emballé, un progressisme qui se serait transformé en doctrine, et d'autant plus facilement finalement que, évidemment, c'est une idéologie flatteuse, dire qu'on est justicier de l'égalité, ça c'est facile d'être embrigadé par cette proposition-là. Et c'est facile, et puis c'est un engagement qui est flatteur sur le plan narcissique et qui est en plus sans risque. Non seulement il est sans risque, mais en plus il peut vous valoir le développement d'une carrière. On peut, dans le champ universitaire, obtenir des financements pour des projets, des colloques. Donc on voit qu'il y a aussi un business et un carriérisme de l'idéologie qui est finalement qui reflète tout à fait un militantisme bourgeois de caste qui est assez littéraire, hein, au fond.
Donc finalement, c'est l'association du politique et du business dont la linguistique et la grammaire ne sont qu'un prétexte pour maintenir des positions acquises ou pour comme vous l'avez bien dit, à obtenir ici ou là des postes ou des prébendes.
C'est Vladimir Jankélévitch parlait pour distinguer pour ça l'aventurier de l'aventureux. Hein, il parlait du professionnel des aventures, hein, celui qui va mettre en avant son courage, mais voilà, d'une manière un petit peu artificielle. C'est bon, on connaît bien ce militantisme-là, et bon, disons qu'il a investi aujourd'hui la langue, mais au fond, comme on y faisait allusion tout à l'heure, c'est l'aboutissement de tout un discours qui vient de loin. Hein. Rappelons-nous, ça date des années 70, de dire la langue est fasciste. Bon, c'est évidemment une hyperbole, mais qui aujourd'hui s'est transformée. Hein. Voilà, en 2020, on dit la langue est sexiste. Bon, ça n'a pas plus de sens. Vous savez, c'est ce genre de proposition, c'est ce que j'appelle le style philosophard. Hein. Vous dites des grandiloquences, vous dites des choses comme le langage, c'est, et puis vous pouvez dire ce que vous voulez derrière. Au fond, on peut aussi bien dire. Voilà, le langage est une prison, le langage est une libération. Ça n'a aucun sens parce que à ce niveau de généralité, à ce niveau de poésie, finalement, on est hors de toute démonstration, on est dans la proclamation, dans l'incantation, et ça flatte celui qui propose ce genre d'énoncé. C'est facile et surtout. C'est vendeur, c'est de l'ordre du slogan. Et le slogan, malheureusement, ce n'est pas une démonstration. Et c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est que tout ce discours sur la langue, y compris tenu par des linguistes, il se passe de toute démonstration, de toute méthode, de tout socle scientifique, pour être dans la pure revendication, mais au nom d'une interprétation qui est très, très discutable et surtout qui est excluante parce qu'elle refuse l'idée que on puisse être d'un avis différent. Hein. C'est là où il y a un ferment de totalitarisme, c'est que l'inclusivisme n'admet pas une autre interprétation de la langue que la sienne. Et ça, c'est évidemment extrêmement clivant.
Bien, merci beaucoup, Jean Stamovitch, de nous avoir apporté ces éclairages sur la linguistique, sur la grammaire. Je rappelle l'un de vos ouvrages, Le sexe et la langue, petite grammaire du genre en français, qui explicite et qui développe effectivement ces questions et tous les enjeux qui tournent autour de la langue. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.